RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Jeanne Bartoli. Dans cette édition, en dépit des tensions, un nouvel échange d'otages israéliens contre des détenus palestiniens doit avoir lieu ce matin.
Septième vague de libération prévue par la première phase de l'accord de trêve entre le Hamas et Israël. Alors que l'application de la deuxième phase, elle, tarde, le Hamas et Israël s'accusent mutuellement de violation de la trêve. Nous sommes à Jérusalem dans un instant. À suivre également l'Allemagne à la veille des législatives qui devraient voir l'effondrement du SPD, le parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz s'est donné derrière l'AFD, formation d'extrême droite. Dans ce journal aussi, Emmanuel Macron qui inaugure ce matin le salon de l'agriculture. Nous serons aussi au Chili. 4 citoyennes américaines atterrissent aujourd'hui à Santiago, la capitale. Elles vont retrouver leur mère biologique, elles qui ont été séparées et mises illégalement à l'adoption. Scandale que nous raconte Neila de Rouanet. Et puis le destin maudit de Brian Jones, le leader des Rolling Stones, raconté dans un documentaire qui retrace la vie du guitariste.
Au Proche-Orient, c'est le dernier échange d'otages contre des détenus palestiniens dans la première phase de l'accord de trêve.
Un accord de trêve à Gaza entre le Hamas et Israël qui n'a peut-être jamais paru aussi fragile. On retrouve tout de suite Michel Paul en direct de Jérusalem. Bonjour.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
6 otages israéliens, tous vivants, doivent être libérés ce matin, Michel, contre 602 détenus palestiniens. Tout est prêt pour ce nouvel échange qui va se dérouler d'un instant à l'autre en 2 endroits différents de la bande de Gaza.
Oui, les libérations ce matin se déroulent dans 2 sites différents de l'enclave palestinienne, à Nusayrat, dans le centre de Gaza, et également à Rafah, dans le sud. Avec la mise en scène habituelle, tout est prêt, semble-t-il. Les véhicules du CICR sont déjà arrivés à Rafah pour ce 7e et dernier échange otages-prisonniers. Et c'est le plus important de cette première partie de l'accord de trêve. 6 Israéliens vont être libérés. Parmi eux, 4 otages enlevés le 7 octobre 2023, dont 3 lors du festival de musique Nova, mais aussi 2 Israéliens qui sont détenus depuis plus de 10 ans dans la bande de Gaza. Hicham al-Sayed, originaire d'un village bédouin, et Avera Mengistu, d'origine éthiopienne, tous 2 souffrent de problèmes psychiques. Ils sont entrés de leur plein gré dans l'enclave palestinienne. Et plus tard, ce sera la seconde partie de cet échange. 602 prisonniers palestiniens vont eux aussi être remis en liberté.
Alors ces libérations, elles interviennent après plusieurs journées de tensions autour notamment du sort de Shiri Biba. Ce matin, son corps a été formellement identifié par l'Institut médico-légal israélien.
Oui, à l'issue d'une véritable saga, c'est le kibboutz de Nir Oz, d'où elle a été enlevée, qui annonce ce matin officiellement qu'elle a été tuée pendant sa captivité à Gaza. « Nous pleurons et nous sommes brisés », affirme la famille qui a pris coup sur coup la mort de Shiri Bibas, 32 ans, et de ses enfants Kfir et Ariel. Un rebondissement qui s'est déroulé hier lorsque le Hamas a remis à la Croix-Rouge un nouveau cercueil avec cette fois les restes de la jeune femme après avoir transféré le corps d'une Gazaoui anonyme. L'organisation islamiste a affirmé qu'il s'agissait d'une simple erreur.
Michel Paul, merci en direct avec nous de Jérusalem pour cette 7e vague donc de libération d'otages israéliens contre des détenus palestiniens dont 50 ont été condamnés à la prison à perpétuité. Dans l'actualité également, Donald Trump qui poursuit ses déclarations sur le dossier ukrainien. Le président américain estime désormais que Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine vont devoir se parler. Déclaration au moment où, selon Volodymyr Zelensky, se négocie un accord sur l'accès des États-Unis aux minerais stratégiques de l'Ukraine en contrepartie de leur soutien. Zelensky qui appelle les Européens à faire plus pour garantir la paix en Ukraine. Et ce alors qu'Olaf Scholz est à l'épreuve des urnes. Demain, les sondages prédisent une claque pour le chancelier allemand sortant et sa formation, le Parti social-démocrate, et une montée en puissance de l'AFD. Les sondages donnent la formation d'extrême droite en 2e position derrière les conservateurs qui font course en tête. Tous les candidats étaient hier sur le terrain. Notre envoyé spécial Julien Chavannes était à Dortmund pour le tout dernier meeting d'Olaf Scholz.
Sans cravate, micro à la main, Olaf Scholz arpente la scène avec un message. Pas question de baisser les bras.
Le SPD est bien plus fort que ce que disent les sondages. Les gens qui hésitent encore doivent décider maintenant.
Le chancelier sortant promet toujours une remontada. Mais dans la salle, Noura Schmidt, 19 ans, est inquiète.
J'ai peur parce que je ne sais pas comment tout ça va finir. Mon père vient du Maroc, donc je ne sais pas si la vie sera la même si l'AFD a autant de voix.
La campagne du SPD n'a jamais décollé, plombée par la crise économique et par la série d'attaques meurtrières. Olaf Scholz n'a rien pu faire, regrette Michael.
Il y avait beaucoup trop d'attentes et peut-être que le chancelier n'est pas le meilleur communicant.
Le chancelier sortant répète qu'il peut toujours convaincre les indécis. Un tiers des électeurs hésite encore. Sven, écharpe rouge du SPD autour du cou, y croit encore.
Je pense que nous pouvons convaincre beaucoup de gens aujourd'hui et dans les jours à venir. Et je suis très optimiste. Nous aurons un meilleur résultat que ce que prédisent les sondages.
Mais pour Michael, il est déjà trop tard.
Il n'y a aucune chance. Franchement, c'est fini. La partie est terminée.
Julien Chavanne, Dortmund, RFI.
Les élections législatives en Allemagne que vous suivez également sur notre site RFI.fr. Série de reportages signés de notre correspondant Pascal Thibault. Et puis reportage également pour les 3 ans du conflit ukrainien RFI qui sera en édition spéciale à Kiev lundi avec Andréane Mellard et nos envoyés spéciaux.
RFI 8h06 à Kinshasa. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle le Rwanda à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo.
Et c'est la première fois qu'une résolution rédigée par la France a été adoptée. Elle condamne directement le soutien de Kigali aux rebelles du M23 qui poursuivent leur avancée. Écoutez Nicolas de Rivière, c'est le représentant permanent de la France auprès de l'ONU.
Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. La MONUSCO doit pouvoir mettre en œuvre son mandat pour le bien des populations civiles, sans être entravée dans ses actions ou sa liberté de mouvement. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises et le démantèlement des FDLR.
Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France auprès de l'ONU, invité à participer à la réunion. Le représentant du Rwanda a dit prendre note de la résolution tout en évoquant, je cite, des pressions regrettables exercées sur les pays africains siégeant au Conseil. De son côté, le représentant congolais s'est félicité de l'adoption de cette résolution tout en regrettant que le Conseil ait mis autant de temps à agir. La résolution votée hier ne prévoit pour le moment pas de sanctions.
Lui est attendu aujourd'hui au Salon de l'Agriculture.
Et comme chaque année, Emmanuel Macron doit inaugurer ce matin la 61e édition. Au total, 600 000 visiteurs sont attendus sur les 9 jours du Salon. Et nul doute que ces visiteurs, mais aussi les agriculteurs, vont interpeller Emmanuel Macron pour parler de leur situation. Victorien Villaume, la déambulation du chef de l'État ce matin pourra en tout cas difficilement moins bien démarrer que l'an dernier.
L'édition 2024 avait été calamiteuse pour Emmanuel Macron. Bousculades, insultes, confrontations entre agriculteurs en colère et forces de l'ordre, une ambiance chaotique largement filmée et diffusée, à tel point que l'inauguration, prévue en principe à 9h, avait dû être retardée. Cette année, ce sera le retour au calme, espère l'Élysée. D'abord, la loi d'orientation agricole, pensée pour répondre à la grande colère de l'an dernier, vient tout juste d'être adoptée définitivement par le Parlement. Ensuite, Emmanuel Macron, depuis la dissolution de l'Assemblée l'été dernier, a dû se mettre en retrait de la scène nationale. L'entourage du chef de l'État le considère donc moins exposé. Prudence toutefois, de l'aveu même d'Arnaud Rousseau, patron de la FNSEA, premier syndicat du secteur agricole, le président a de fortes chances d'être pris à partie. Parmi les sujets d'inquiétude qui demeurent, l'accord de libre-échange UE-Mercosur, contesté par la France, sans succès pour le moment.
Victorien Villaume du service politique TRFI.
C'est l'un des très nombreux exemples des scandales d'enfants volés dans le monde.
Des enfants mis à l'adoption illégalement. Ces dernières années, la lumière a été faite sur ces nombreuses affaires. Des bébés volés pendant les dictatures espagnoles, argentines, mais aussi chiliennes. 4 citoyennes américaines atterrissent aujourd'hui à l'aéroport de Santiago au Chili. Elles doivent retrouver sur place leur mère biologique. Ces 4 femmes font partie des 20 000 enfants adoptés illégalement entre 1960 et 1980. sans l'accord de leur mère, qui était souvent pauvre et illettrée, un trafic d'enfants essentiellement sous la dictature d'Augusto Pinochet. Les parents adoptifs, bien souvent du pays aussi, venaient en majorité d'Amérique du Nord et d'Europe. À Santiago, le récit de Naila Derouane.
Non, non et non, Teresa le répète, elle n'a jamais voulu faire adopter son bébé. À l'époque, elle a un peu plus de 30 ans et vient d'accoucher de son deuxième enfant, une petite fille. Teresa ne sait pas lire ni écrire. À l'hôpital, on lui fait pourtant signer des documents et à la sortie, une femme l'attend et lui enlève son enfant des bras. « J'ai été trompée », soupire-t-elle. Impuissante face à la situation, Teresa, qui vient d'un milieu très précaire, finit par se dire que sa fille aura un meilleur avenir là où elle se trouve. De l'autre côté du continent, Jada, sa fille, a été adoptée par une famille américaine. Mais ce n'est qu'une fois adulte qu'elle entend parler de ces adoptions illégales. Elle commence alors des recherches pour connaître la vérité sur sa propre histoire et avec l'aide de l'association Connecting Roots, elle retrouve la trace de Teresa, sa mère biologique. Les deux femmes vont se rencontrer aujourd'hui pour la première fois, mais Teresa appréhende car sa fille va ensuite devoir repartir d'où elle vient, dit-elle. L'histoire de Teresa et Jada est loin d'être un cas isolé au Chili et des centaines de mères pressées par le temps qui passe cherchent encore et toujours l'enfant qui leur a été volé. Naila Derouane, Santiago, RFI.
Les enfants volés du Chili, article à retrouver sur RFI.fr.
Elle doit permettre de transformer l'économie sénégalaise et d'approvisionner l'Europe en gaz liquéfié.
Et un mois et demi après le début de l'exploitation du champ gazier situé à 115 km des côtes mauritano-sénégalaises, le premier cargo de GNL quitte aujourd'hui les côtes sénégalaises, le Sénégal et la Mauritanie, qui accèdent donc au statut d'exportateur de gaz GNL. Les précisions à Dakar avec Léa Lisa Westerhoff.
Chargé de 178 000 m3 de gaz, ce premier cargo quittera aujourd'hui les eaux mauritano-sénégalaises, direction les marchés européens. Cette première cargaison marque le début de la commercialisation du gaz liquéfié pour la Mauritanie et le Sénégal, et donc des premiers revenus. 2,3 millions de dollars pour chaque pays par bateau, selon une source proche du dossier. Pour les deux pays, c'est une étape importante. La production gazière initialement prévue en 2022 a été repoussée à plusieurs reprises. Elle est très attendue par le Sénégal et la Mauritanie, qui espèrent des retombées économiques importantes. Des retombées cependant revues à la baisse par l'explosion des investissements réalisés par les entreprises pétrolières. Le projet a coûté 7,5 milliards de dollars environ. Les revenus seront marginaux, mais déjà en garde un expert pétrolier au vu du coût de l'investissement initial. Dakar et Nouakchott avaient ordonné des audits qui ont conclu à une surévaluation de ces coûts, des audits qui n'ont pas d'impact sur l'avancée de l'exploitation gazière, estime cependant une source côté mauritanien. Léa Lisa Westerhoff, Dakar. RFI.
Enfin, on termine ce journal avec du cinéma et un documentaire fouillé signé Nick Bromfield qui revient sur la courte carrière de Brian Jones, fondateur des Rolling Stones, un des plus célèbres groupes de rock de la planète évidemment, une comète et une légende du rock. Brian Jones, mort à l'âge de 27 ans en 1969. Isabelle Chenu.
Brian Jones et les Rolling Stones est une plongée dans le tourbillon du swinging London des années 60, au plus près de cinq garçons aux cheveux longs qui allaient devenir les plus grandes stars du rock mondial. Parmi eux, Brian Jones, guitariste amateur de blues, leader de la formation, beau gosse, issu de la bourgeoisie, renié par sa famille. C'est lui qui a recruté un chanteur encore inconnu, Mick Jagger, et un guitariste, Keith Richards. Il les héberge dans son studio miteux. Ils deviendront, en quelques années, des icônes riches et célèbres. Qu'est-il arrivé à Brian Jones, génial et fragile, paranoïaque, dévasté par la drogue, père de 6 enfants en 9 ans, tous nés de mères différentes? Nick Bromfield, le réalisateur, a eu accès à des archives inédites, à des témoignages de proches. Il brosse le portrait d'un éternel insatisfait à l'autodestruction programmée. À 26 ans, il n'est presque plus en état de jouer. Mick Jagger et Keith Richards ont pris l'ascendant dans le groupe. Le 3 juillet 1969, il est retrouvé en overdose, noyé dans sa piscine.
Comment mieux finir ce journal? Les Rolling Stones sur RFI.
On devrait faire ça tous les matins. Merci.
Exactement.
Ouais. Merci Jeanne Bartoli, à tout à l'heure. RFI Matin, troisième et dernière heure. Dans une quinzaine de minutes, un nouveau point sur l'info africaine. Les affrontements qui continuent dans l'est de la RDC et la pression sur le Rwanda du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union européenne. Dans ce contexte où en est la piste d'une issue par le dialogue dans ce conflit, Félix Tshisekedi y est-il totalement fermé? Élément de réponse à suivre avec Patient Ligaudi dans le journal de 7h30, temps universel. Juste après, ce sera le journal des sports avec Victor Missistrano et au sommaire d'ici là, notamment l'un de nos rendez-vous du samedi, jusqu'où va la science et une découverte étonnante. Les momies égyptiennes vieilles de plusieurs millénaires sentent bon, croyez-le ou non. Caroline Lachowski nous expliquera pourquoi. Et tout de suite, la revue de presse. Avec vous Catherine Potel, le tour de la presse internationale et à la une, la mort confirmée de l'otage israélienne Shiri Bibas.
Ce soir, notre Shiri est rentrée à la maison. Ces mots de la famille de Shiri Bibas sont à la une du quotidien israélien Haaretz. L'Institut National de Médecine Légale a confirmé qu'elle avait été assassinée en captivité et que sa dépouille se trouve désormais en Israël. La famille de l'otage israélienne, accablée, a espéré jusqu'au bout pour Shiri et ses deux enfants. Malgré nos craintes, nous continuons à espérer pouvoir les serrer dans nos bras. Et maintenant, nous souffrons et nous sommes brisés, disent-ils. Hier, les dépouilles des deux petits garçons avaient été ramenées dans l'État hébreu, ainsi qu'un troisième corps qui s'était avéré ne pas être celui de la mère de famille israélienne. Cette fois-ci, il n'y a plus de doute, le quatrième corps délivré par le Hamas est bien celui de Shiri Bibas. Haaretz publie la réaction du Forum des otages et des familles disparues qui fait part de sa grande douleur. Les journaux israéliens insistent sur le fait que Shiri Bibas a été assassiné en captivité et non pas tué par un bombardement israélien, comme l'affirme le Hamas.
À la une également, un nouveau salut, interprété comme un salut nazi aux États-Unis.
Après Elon Musk, c'est cette fois-ci Steve Bannon, ex-conseiller de Donald Trump, qui a fait ce geste, bras droit tendu devant lui. Le New York Times précise que Bannon dément toutefois qu'il s'agissait d'un salut nazi. Dans un message, il assure qu'il a salué, comme d'habitude, le mouvement MAGA, Make America Great Again. Les faits se sont déroulés lors de la conférence d'action politique conservatrice à Washington, à laquelle assistait Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, l'extrême droite française, qui a préféré, précise le New York Times, annuler son intervention après le geste de Steve Bannon, expliquant qu'un des intervenants avait fait un geste provocateur faisant référence à l'idéologie nazie. Steve Bannon a aussitôt répliqué en qualifiant Jordan Bardella de joli garçon trop faible pour gouverner la France. En Italie, le Corriere della Sera publie la photo de Steve Bannon, le bras tendu, et cite Antonio Giordano de Fratelli d'Italia, l'extrême droite italienne, selon lequel la salle devant laquelle s'exprimait Steve Bannon était pleine de gens portant des kippas. Pensez-vous qu'il ait pu faire un salut nazi, ajoute Antonio Giordano. Ne plaisantons pas, dit-il. Je crois que Bardella s'en est tenu à un compte-rendu superficiel.
L'actualité internationale particulièrement anxiogène ces dernières semaines, c'est rien de le dire, inquiète, semble-t-il, l'armée belge, Catherine.
La question est en une du quotidien belge Le Soir. Cash, eau, médicaments, faut-il vraiment préparer un stock de guerre? Le chef de la défense, Frédéric Vansina, explique le journal, a appelé les Belges à se préparer à la guerre en stockant de l'argent et des vivres, notamment au cas où les réseaux bancaires ou d'approvisionnement en vivres seraient paralysés par des cyberattaques. Il pense bien sûr, nous dit Le Soir, à une guerre hybride, mais la liste des menaces est longue. La Commission européenne a d'ailleurs commandé un rapport sur ce sujet. L'accent est mis sur la communication à destination de la population, qu'on incite à se poser plusieurs questions, comme celle-ci. Mes enfants connaissent-ils le numéro 112, le numéro d'appel au secours? Ai-je des copies de mes papiers d'identité? Est-ce que je sais comment couper le gaz et l'électricité rapidement? Il n'est pas prévu toutefois d'envoyer une brochure d'information à tous les citoyens, ce qui risquerait d'affoler la population, estime le centre de crise belge, qui assure travailler prioritairement sur la sensibilisation pour que la population apprenne à développer les bons réflexes. Il est notamment question d'un kit d'urgence dans lequel on trouverait une radio à pile, parce qu'en cas de problème au niveau du réseau de télécommunication, la radio pourrait être un moyen de transmettre des messages à la population. Et oui, la radio, c'est vital, ce n'est pas nous qui vous dirons le contraire.
Ah, ça c'est clair. Merci Catherine Potet, très bonne journée.
Jusqu'où va la science ? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Que peut bien nous apprendre l'odeur des momies égyptiennes ? Une équipe internationale de chercheurs a étudié l'odeur exhalée par des momies conservées au musée égyptien du Caire. Et résultat de leurs analyses, contre toute attente, les momies sentent bon.
Oui Julien, plusieurs millénaires après leur embaumement, les 9 momies étudiées exhalent des notes boisées, épicées et sucrées, avec même parfois des notes florales et des notes d'encens. Il fallait sentir bon pour se présenter devant Osiris, le maître du royaume des morts. Paru dans le Journal of the American Chemical Society le 14 février, cette analyse olfactive est une première qui devrait permettre de percer quelques-uns des secrets des méthodes de momies et des techniques d'embaumement dans l'Égypte ancienne. Quels produits utilisaient les embaumeurs pour préparer les défunts à leur dernier voyage ? Et comment le découvrir sans toucher aux momies ? Comme le souligne le professeur Matijas Lik de l'Université de Ljubljana et de l'University College de Londres, qui a supervisé cette étude, l'odeur des corps momifiés suscite depuis des années un grand intérêt chez les experts comme dans le grand public. On parle parfois de la douce odeur de sainteté émanant des corps momifiés des saints chrétiens. Mais jusqu'à présent, aucune étude mêlant chimie et perception n'avait pu être menée. Il faut préciser que les molécules odoriférantes sont volatiles par essence et très rarement préservées en archéologie, sauf chez les momies égyptiennes, justement, piégées dans des sarcophages et préservées de l'humidité par un climat particulièrement aride, après une préparation tout aussi particulière. Le corps était vidé de ses organes, desséché et agrémenté d'une gamme de produits aux propriétés antibactériennes et antifongiques et odoriférantes. Des huiles de résineux, de la myrrhe, des herbes, des épices, de l'encens et des fleurs entre autres, d'où ce parfum boisé, sucré et floral qui subsiste pendant des millénaires.
Il a fallu identifier, quantifier, qualifier toutes ces odeurs, ces parfums, les molécules chimiques correspondantes. Comment les chercheurs s'y sont-ils pris ?
Ils ont eu recours à la fois à des humains, des nez, comme en parfumerie, entraînés à sentir et à décrire les effluves libérées par les momies, mais aussi à des nez électroniques, des appareils, programmés pour capter les différentes molécules et les analyser de façon absolument non-invasive pour les momies, sans les toucher, à partir d'échantillons d'air prélevés autour de ces momies. Les renifler de la sorte permet aussi de mesurer leur état sanitaire, car certaines, qui ont connu une seconde vie en tant qu'objet de collection, ont souffert d'avoir été manipulées. Parmi les 9 momies reniflées, toutes ne sentaient pas que la rose. Certaines issues des réserves ou exposées dans les vitrines du musée égyptien du Caire exhalaient aussi des odeurs fétides, rances, voire même des odeurs de fromage, signe de la présence de champignons ou d'attaques de bactéries. D'où l'intérêt de cette approche archéologique, transdisciplinaire et surtout multisensorielle qui permet d'éclairer non seulement les extraordinaires techniques d'embaumement des momies dans l'Égypte ancienne, mais aussi de nous révéler à quoi pouvait bien ressembler, pour les Égyptiens, le parfum d'éternité, boisée, fleurie et épicée.
Jusqu'où va la science ? Et Caroline, on vous retrouve la semaine prochaine au programme d'Autour de la question.
La science des ricochets, mardi, qui nous entraînera jusque dans la mécanique des nanofluides. Et lundi, autour de la question pourquoi les chouettes effraient sur la trace de ces oiseaux de nuit méconnus, mal aimés et pourtant si chouettes.
Merci Caroline Lachowski. Bienvenue dans le game, comme chaque semaine. Bonjour Jennifer Lufaux.
Bonjour Julien.
On va faire un petit point sur l'actualité cette semaine. Que s'est-il passé récemment dans le monde du jeu vidéo ?
Ah bah tant de choses plus ou moins palpitantes, Julien. En tout cas, de quoi tenir en alerte tous les joueurs et joueuses, je vous raconte. D'abord, un événement historique a eu lieu le 13 février dernier, la toute première grève généralisée de l'industrie du jeu vidéo en France. Et oui, si des grèves avaient déjà eu lieu, elles n'avaient jamais autant mobilisé les travailleurs et travailleuses du secteur. Plus de 1000 personnes ont fait grève dans 9 villes françaises et même dans d'autres pays. Portés par le syndicat national des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, les manifestants appellent notamment au maintien des emplois, à l'annulation des licenciements, à la transparence des entreprises du jeu vidéo sur leurs finances, à la prise en compte de la santé au travail, mais aussi à la participation directe des travailleurs et travailleuses aux prises de décision dans leur entreprise. On espère qu'ils seront entendus.
Côté nouvelle technologie, c'est Microsoft qui lance un nouveau produit.
Oui, et ça ne risque pas de plaire aux travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Microsoft et Xbox ont développé Muse, une intelligence artificielle dédiée au monde et aux actions humaines dans les jeux de combat. Cette IA devrait être capable de générer des séquences de gameplay variées et qui ont du sens. Muse est censé devenir un outil pour notamment aider les développeurs à faire revivre d'anciens jeux Xbox en les adaptant à n'importe quel support. Ce projet qui a d'abord débuté avec les chercheurs de Microsoft dans la perspective d'explorer ce que peut offrir l'IA a été le fruit d'une collaboration entre les équipes de Ninja Theory, le développeur du jeu psychologique Senua's Saga, ainsi que les équipes Xbox.
Enfin, Jennifer, une actualité qui va plaire aux fans de Pokémon.
Oui, saviez-vous, Julien, qu'il existe une journée dédiée aux Pokémon ? Et en plus, c'est pour bientôt, le 27 février prochain. The Pokémon Company invite les dresseurs et dresseuses du monde entier à regarder une vidéo de présentation pour découvrir les mises à jour et les prochaines annonces de la marque. Il faudra se connecter sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon ou sur Twitch dès 15h en France pour ne rien rater. Mais Pokémon réserve aussi à ses fans des offres spéciales durant tout le mois. Alors restez à l'affût et rendez-vous le 27 février prochain.
C'est bien noté. Merci Jennifer Lufaux.
Merci Julien.
À la semaine prochaine.
RFI Matin.
On l'a admiré cet été comme écrin des épreuves d'escrime et de taekwondo des Jeux Olympiques. À Paris, après des années de travaux, le Grand Palais a rouvert ses portes et accueille sa première exposition intitulée The Soul Trembles, l'âme tremble en français. C'est l'artiste japonaise Chiharu Shiota qui est à l'honneur, célèbre pour ses installations monumentales de fil et de laine, un univers poétique et spectaculaire, nous dit José Marinho.
L'art de Chiharu Shiota tient à un fil, avec plus de 40 km de cordes de laine monochrome noire ou rouge. L'artiste japonaise a tissé 7 installations monumentales suspendues sous la verrière du Grand Palais. Quel sens donne-t-elle au fil rouge omniprésent dans son œuvre? Mami Kataoka est la commissaire de l'événement parisien.
Les installations de Chiharu Shiota tissent des nuages de milliers de fils. Elles sont comme des dessins en 3 dimensions. C'est une métaphore sur les liens invisibles qui créent l'existence humaine. C'est aussi la connexion avec le destin, mais surtout à la couleur rouge, symbole du sang, de la nationalité, des genres, de la religion, de la famille et de bien d'autres choses.
Le rouge est aussi la couleur du drapeau japonais. Mais que reste-t-il de japonais chez cet artiste international que depuis les années 90 a participé à plus de 300 expositions à travers le monde?
Difficile de la qualifier d'artiste japonaise parce qu'elle vit en Europe depuis 30 ans et qu'elle réside actuellement à Berlin après avoir étudié en 1996 avec la reine de la performance, la Serbe Marina Abramović, puis la sculptrice polonaise d'avant-garde Magdalena Abakanović.
Ces deux artistes engagés l'ont libérée de son complexe d'être une femme artiste dans une société dominée par les hommes. Et aujourd'hui, à 53 ans, Chiharu Shiota se situe entre performance et sculpture. Au Grand Palais, dans ses nuages de fils entrelacés, se trouvent prisonniers des clés, des lettres, un piano, des chaises d'enfants et des robes de fées. Des objets qui racontent une histoire éternelle, celle de la mémoire, du vécu, des échecs, de la maladie, de la vulnérabilité, de la nostalgie, mais aussi du désir. Mami Kataoka.
La sensibilité de Chiharu Shiota se traduit par une œuvre universelle, de la naissance à la mort, du rouge comme le cordon ombilical qui marque la naissance, au noir, de l'au-delà et de l'espace. Ça demande beaucoup d'attention à chaque détail parce que le but de cette exposition, c'est de créer un espace d'intimité pour plonger le visiteur dans les profondeurs de l'âme.
Le savoir-faire de Chiharu Shiota, dans sa recherche de l'invisible et du non-dit, fait un pas de plus vers la compréhension de ce qui constitue l'essence même de l'être humain, la quête de sens.
The Soul Trembles, l'exposition de Chiharu Shiota, à voir jusqu'au 19 mars au Grand Palais à Paris, bientôt 7h30 en temps universel. Bienvenue sur RFI si vous nous rejoignez, le journal dans une minute. À tout de suite.
RFI à Freetown, 89.9 FM. Libreville, 104 FM. En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Rim Battal pour son roman « Je me regarderai dans les yeux » qui met en scène une adolescente marocaine sommée de fournir un certificat de virginité. Une fiction aux accents autobiographiques pour cette libre penseuse amoureuse de Georges Bataille.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Dimanche à 15h10 temps universel et en podcast sur RFI.fr.
Ce lundi, journée spéciale, 3 ans après le début de la guerre en Ukraine. Andréane Mellard.
Et pour l'occasion, RFI sera à Kiev en direct avec nos invités, nos correspondants. On va parler de la guerre meurtrière toujours en cours, de l'état de la population et surtout de la paix. Est-elle possible? Sur quelle base et à quel prix? Rendez-vous ce lundi 24 février dès 6h temps universel sur RFI.